Vous écoutez
RMC. RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans les grandes gueules du sport, votre émission incontournable du samedi et du dimanche matin au direct jusqu'à midi. Et cette saison, rappelez-vous l'horaire, les GG vous régalent dès 9h en direct avec ce matin un très beau programme puisqu'on va revenir sur le festival hier du Paris Saint-Germain au Parc des Princes, victoire 6-0 face à Montpellier. Et sur ce projet parisien de la jeunesse, fini les stars, il n'est plus question de surpayer des joueurs sur le marché des transferts. Mais êtes-vous pour autant convaincu par ce mercato du PSG 32-16 pour nous rejoindre dès maintenant et participer au débat avec nos GG. L'US Open, c'est dès lundi un tournoi du Grand Chelem marqué par l'annonce des contrôles positifs du numéro 1 mondial Yannick Sinner, finalement innocenté. Une affaire qui secoue le monde du tennis, vous l'entendrez dans cette émission. Et on se pose la question, Yannick Sinner doit-il faire l'US Open? Et puis à 11h, les GG passent la seconde, reviennent sur la nomination de Gérald Baticle à la tête des Espoirs, celle de Laurent Bonnadi à la tête de l'équipe de France féminine. Fini l'ère Henri et Hervé Renard. Est-ce que c'est un retour en arrière pour ces sélections? Sans oublier vos rendez-vous habituel, le zapping des GG, la punchline et l'invité des grandes gueules du sport à 4 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques. On sera avec le porte-drapeau Alexis Anquincan qui nous fera le plaisir d'être avec nous en direct. Champion paralympique à Tokyo en paratriathlon, c'est une très très grande chance de médaille française. Ce sera à 11h30, le 32-16 ouvert pour nous rejoindre dès maintenant. Le hashtag RMC Live sur X, l'appli RMC Direct Studio pour tous vos messages. Et pour la rentrée sur RMC, nous avons décidé de vous couvrir de cadeaux toute cette semaine. Si vous osez ouvrir le coffre RMC, vous repartirez avec la totale, écoutez bien, un MacBook Air, un iPhone 15, une Apple Watch et une PlayStation 5. Dès que vous entendez ceci, ah ouais, vous pouvez pas rater, envoyez coffre au 7-32-16, coffre au 7-32-16, alerte qui peut tomber à tout moment pendant les grandes gueules du sport. Et aujourd'hui, une grande gueule qui, comme Laurent Nicolin, va au resto tous les vendredis soirs sans jamais faire une overdose de tartiflette. Pascal Duprat est avec nous. Salut Pascal.
Bonjour François, bonjour les amis.
C'est la tartiflette, toi, ton plat préféré? Toi, le Savoyard?
Disons que c'est un de mes plats, on va dire oui, de par mes origines, la tartiflette, la fondue savoyarde, oui. Mais
c'est quoi ta... Vas-y.
Oui, mais j'ai envie de garder la ligne, donc c'est pas tous les jours.
Pas tous les jours. Bon, le vendredi soir, un petit resto comme ça. Une grande gueule qui, comme Laurent Nicolas, va au resto tous les vendredis soirs, mais ça lui coûte bien plus que 30 euros parce qu'il y a la soirée derrière. Pierre-Ambroise Boss est avec nous. Salut Pierre-Ambroise.
Mais non, mais je fais même plus la soirée. Salut.
Ah bon?
Enfin, je fais même plus le resto plutôt.
Là, t'es en forme, là, même après une soirée, un vendredi soir. Non,
on vient du même endroit, de l'Est de Paris, donc on met une heure pour venir, si tu veux.
Voilà, ça réveille.
Donc, bah oui.
Ça réveille un peu. On est ravis de te retrouver, en tout cas. Une grande qui, comme Laurent Nicolas, va au resto tous les vendredis soirs parce que lui, il s'en fout. DAZN, c'est gratos. Walid Acharsour est avec nous. Salut Walid.
Salut à tous.
Ça va?
Ça va super.
En pleine forme, il était là hier. On a entendu dans l'after.
On a dormi dans le studio.
il a sa tente à côté.
Exactement.
Mais c'est ça qu'on aime avec Walid Acharsour. Il est là, il aime ça et il aime le foot. On va en parler, ça tombe bien, de foot. Enfin, plutôt du ballon qui rend fou. C'est un nouveau sport. C'était hier au Parc des Princes.
RMC.
La une des grandes gueules du sport.
Heureusement, il y a Kylian Mbappé.
On n'a pas besoin.
Non.
La star, c'est pas le Saint-Germain aujourd'hui.
Le poitier poteau rentre. Et l'ouverture du score. Bradley Barcola. Après 3 minutes de jouer, le PSG a déjà trouvé la solution.
Aïe, 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 ouïe.
Et ça tient. Et ça fait deux.
Oh, magnifique.
Bonjour, ça va?
J'ai parlé français.
On construit une équipe jeune, fort, français.
Dembélé, la passe pour Barcola.
Mais qu'est-ce que c'est match joué?
Eh, ça fait 3! Ils sont chirurgicaux!
On n'est pas pressé.
Je suis content! Très content!
Hakimi! Eh, ça fait 4! Pour le Paris Saint-Germain!
Il crée une équipe. Ça veut dire, c'est comme un puzzle. Il faut que les pièces, ils font clic.
Oui, bonne vacances, bonne vacances. Au revoir.
Oh, attention avec Zahir!
Oh là là! Oh,
ça fait 5!
Personnellement, les fessées, ça me plaît pas trop. Il y a peut-être certaines personnes qui s'en réjouissent de prendre des fessées, pas moi. Il y a des boîtes spécialisées pour cela, mais moi, j'y vais pas dans ces boîtes-là.
Parce que c'est notre projet !
PSG Montpellier hier avec aux commentaires, vous l'avez reconnu, Arnaud Valadon qui nous a fait vibrer pour ce festival 6-0. Des buts plus jolis les uns que les autres, doublé de Barcola, Asensio, Hakimi, Zahir Emery, Kang In-Lee. On va débriefer cette rencontre évidemment et puis parler de ce recrutement, de ce mercato parisien. Le PSG qui amorce un nouveau projet avec un coach Luis Enrique qui s'est montré très clair dans ses prises de parole. Plus question de surpayer des joueurs. Un recrutement axé sur la jeunesse depuis le début du mercato. Désiré Doué, Joao Neves, Nacho Safonov pour 170 millions d'euros. Alors cette question ce matin, les grandes gueules, est-ce que vous êtes convaincu par le mercato du PSG, oui ou non, Pierre-Ambroise Boz?
Oui.
Walid Acharchou?
Non.
Pascal Duprat?
Oui.
Avant de vous entendre, on va accueillir Arthur Perrault qui était hier au Parc des Princes, qui suit le PSG pour RMC. Salut Arthur.
Salut les GG, bonjour à tous.
Salut. Le mercato parisien qui est donc le symbole de ce nouveau projet parisien que tu vas nous détailler.
Oui, plus de collectifs, moins de stars, c'est la devise répétée avec Luis Enrique depuis la reprise du championnat et cela fonctionne. 10 buts marqués en 2 matchs, une première réussie au Parc des Princes hier soir contre Montpellier, 6-0. Le coach parisien fier de son groupe de prestige.
Il n'y avait pas qu'une star, il y en avait 16. Ce sont les 16 joueurs qui sont venus défendre les couleurs du PSG. 16 stars en attaque, 16 stars en défense. C'est la perfection et c'est cela que l'on cherche.
Paris s'est déjà renforcé cet été. Désiré Doué, 19 ans. William Pacho, 22 ans. Joao Neves, 19 ans également. Pour l'entraîneur Luis Enrique, le club de la capitale attire, mais n'accepte pas n'importe qui.
Si un joueur a des doutes sur sa venue au PSG, nous n'en voulons pas. C'est aussi simple que ça. Nous voulons des joueurs qui sentent qu'ils viennent à Paris pour marquer l'histoire, qui ont faim, qui ont l'envie. S'ils hésitent entre un club et un autre, nous n'en voulons pas. C'est ce que je dis aux joueurs. On est sur la même longueur d'onde avec Luis Campos. Nous voulons quelqu'un qui a faim, qui veut venir dans un club unique comme le PSG, dans une ville unique, un pays unique, qui veut entrer dans l'histoire. S'il n'aime pas le championnat, qu'il ne vienne pas. Nous sommes convaincus que ce qui fait la différence, c'est la faim qu'on peut avoir.
Le Paris Saint-Germain dit rester à l'affût d'opportunités sur le marché des transferts. Dès hier soir, il a déjà envoyé un sacré message à ses concurrents en Ligue 1. Il ne s'était plus imposé par 6 buts d'écart depuis 2019 contre Guingamp.
Ah oui, quand même. Merci beaucoup Arthur. Tu restes avec nous pour ce débat. Je rappelle la question, est-ce que vous êtes convaincu par le mercato du PSG? Et on vous attend au 32-16 dès maintenant au standard des grandes gueules du sport pour nous rejoindre. Pascal, tu as dit oui, convaincu?
Oui, absolument convaincu parce que il me semble que c'est une vision claire d'un projet sportif, celui du Paris Saint-Germain, porté par un collectif de jeunes joueurs. Voilà, ça tranche avec ce qu'on a vu, surtout les dernières saisons, où on avait filé les clés du camion à Mbappé. Et ce que j'ai vu hier, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu au PSG. À savoir 11 garçons, quel que soit leur nom, quel que soit leur poste, quels que soient les changements qui sont opérés. 11 garçons qui courent ensemble pour récupérer le ballon et qui ensuite se déplacent ensemble pour essayer de créer des brèches et de marquer des buts. Donc, surtout avec les jeunes joueurs, mais les joueurs qu'ils ont pris, parce que on doit quand même reconnaître que Pacho a l'air extrêmement solide. Joao Neves, il s'est promené hier. Il est partout, il est tout le temps là, il est toujours disponible, toujours dans les bonnes zones. Et ben Doué, Désiré Doué, quand il est rentré, il a montré qu'il avait aussi ce feu dans les jambes. Donc, il est incomplet ce recrutement-là. J'espère que le PSG va prendre un attaquant, un avant-centre, un joueur de plus, d'autant que Ramos est blessé. Et parce que pour les joutes européennes, je pense qu'il lui faudra un attaquant capable de marquer des buts de manière plus récurrente. Mais autrement,
donc, c'est convaincu, parfait. Mais
j'attends la fin du mercato parce que je pense que ce recrutement-là pour l'Europe est incomplet. Mais toujours est-il que ça me réconcilie avec le football et surtout avec le Paris Saint-Germain. Voilà, les garçons qui s'économisent, qui courent pas, qui donnent pas le ballon, qui en veulent pas, qui jouent quand ils ont envie de jouer. J'ai l'impression que sur ces deux premiers matchs, c'est plus le cas.
En fait, moi, je suis globalement d'accord avec Pascal. On a la même analyse, sauf qu'il a répondu
Convaincu.
Moi, j'ai été convaincu par le match d'hier et je suis d'accord avec lui là-dessus. On a vraiment vu une équipe de football avec de très très belles séquences. On a vu le travail du coach Luis Enrique pendant toute la rencontre. On n'a pas vu une équipe feignante, une équipe qui s'est arrêtée de jouer à 3-0. On a vu une équipe qui a voulu véritablement mettre un gros score à Montpellier. Donc sur ça, je suis convaincu. Les recrues ont été aussi très intéressante. Maintenant, c'est quoi être convaincu par le mercato du PSG? C'est sur la Ligue 1, sur la Champions League ou
connaît les objectifs élevés du PSG.
Est-ce que les objectifs sont à la baisse du côté du PSG? Est-ce qu'on sera un peu plus indulgent? Moi, comme Pascal, je pense que je le pensais déjà avant la blessure de Ramos, mais quand tu perds 3 mois Gonçalo Ramos, ça marche là avec Asensio en faux numéro 9, mais est-ce que Asensio peut faire une saison complète? Colomoigny fait pas un super début de saison et il a eu une saison compliquée l'année dernière. Donc est-ce que avec ça, même s'il y aura des choses positives, parce que Luis Enrique, c'est pour ça que moi j'ai beaucoup d'espoir cette saison du côté du PSG, pas forcément par les recrues, c'est plus le projet Luis Enrique, c'est-à-dire donner les clés à Luis Enrique. Je pense qu'il fera des belles choses, mais Luis Enrique c'est pas non plus un magicien, c'est-à-dire que quand il va rencontrer des très grosses équipes en Ligue des Champions, il va lui falloir quand même un matériel supérieur. Et je trouve que
lui il dit qu'il est convaincu, hein,
lui il l'a toujours dit,
il est convaincu,
on le saura jamais avec aussi son discours sur les stars, s'ils veulent pas venir. Moi, j'aime pas trop le mot star. Moi, je veux des joueurs de qualité qui apportent au Paris Saint-Germain, star ou pas star. Si tu me ramènes un numéro 9 ou un attaquant de qualité, c'est pas les followers sur Instagram, moi, qui me.
Walid, je veux juste, confirmer ce que tu dis. Parce que c'est pas des stars qu'il faut. Ce sont des joueurs de foot.
Oui, exactement.
Les stars, c'est déjà trop tard pour le PSG.
Non, mais moi, parce qu'en fait, on s'enferme dans ce mot star. Moi, des joueurs de grande qualité, entre 22 et 25 ans, des mecs qui peuvent apporter, qui peuvent progresser au PSG. On veut des joueurs de qualité. Faut arrêter avec ce mot-là.
C'est ce qu'on voit là. Oui. Joao Neves, Désiré Doué.
Sur le mercato, est-ce qu'en quantité et en qualité, quand tu as fait 20 millions un gardien Safonov, on ne sait pas s'il va être utilisé cette saison, parce que moi je suis pas sûr qu'il soit meilleur que Donnarumma. Pacho, il fait des très bons débuts, mais on va attendre sur la durée. Joao Neves, j'aime beaucoup aussi, mais est-ce que ce milieu de terrain face à des très grosses équipes va pouvoir fonctionner avec ses petits gabarits? Moi j'aime bien, ça me plaît, c'est le football qui me plaît. Mais est-ce que c'est pas contre Montpellier qu'on va déterminer si on est convaincu ou pas? Moi, je suis convaincu par la prestation du Paris Saint-Germain. Il y a des perspectives intéressantes. Mais aujourd'hui, quand on voit l'attaque où c'est Asensio, Colomoigny jusqu'en 2025, parce que pour moi, Ramos, c'est 3 mois. Mais 3 mois
où il va revenir.
C'est 3 mois où il va revenir. Mais quand est-ce qu'il va retrouver son niveau, Ramos? Donc, tu peux peut-être mettre une croix sur 2024. Donc, est-ce que sur les 10 derniers jours, parce que la question qu'il faut se poser, c'est tu recrutes, tu recrutes pas?
Visiblement, ils sont pas prêts à faire n'importe quoi sur le marché des transferts, ils sont pas sûrs de recruter un numéro 9.
Mais est-ce que s'ils recrutent pas, est-ce qu'on sera convaincu?
Pour toi, visiblement, non. Pour Pascal, non plus.
Moi, je pense qu'il y aura des belles choses à faire avec cet effectif de la part de Luis Enrique, mais après le départ de Mbappé, je m'attendais à un peu mieux, moi.
D'accord.
Après, ça ne veut pas dire que tout ce qui a été fait est mauvais. Mais je me dis que ça peut, à un moment donné, coincer.
Pierre-Ambroise, toi, tu étais plutôt convaincu, sans doute avant même le match d'hier, par le recrutement du PSG.
Oui, certainement. Walid, je te trouve un peu dur quand même. Ils en ont planté 6.
J'ai fait l'after hier. Je suis très élogieux sur le PSG et hier soir. Bon, pour moi, c'est deux débats très, très différents, en fait.
Oui, bien sûr.
On peut dire que c'était très, très bien hier et il ne faut pas banaliser le match d'hier. Et si on se projette avec les blessures, etc., est-ce que ça peut suffire?
C'est juste bien ça, sûr. Là, je suis d'accord avec toi. Le 11, a priori, ce sera un peu celui-là qui va être pendant toute l'année, mais on peut s'inquiéter un peu plus sur le vestiaire en l'occurrence, et puis il peut tout se passer au foot. Moi j'ai plutôt été ça fait plaisir de voir le PSG jouer. Si on est un peu tout supporter du PSG, ce qui n'est pas forcément mon cas, mais si on l'est, je me projette pour eux, on se ronge pas les ongles pendant qu'on voit ce match. C'est ça qui est agréable, alors que ça a été le cas pendant des années.
Et voilà, on voit.
Tu zappes pas malgré une grosse différence de niveau quand même. Voilà, c'est ça aussi qui est important.
Tu t'ennuies pas, tu la montres.
Tu vois, c'est Djoko qui joue un centième mondial. Il lui met 1-1 quoi. Il vient pas un peu. Tu vois, moi j'aime ça.
Oui, mais parfois tu pouvais t'ennuyer parce que justement la différence de niveau était tellement importante et même le PSG ronronnait d'ailleurs.
Oui.
Ce qu'on n'a pas vu hier.
Entre la défense et l'attaque, justement, ça marche très bien. Là où c'était saccadé justement au milieu pendant des années, là ça fait du bien de voir le milieu justement très actif, que ce soit dans les pressings et aussi en défense, ce qui n'était pas forcément le cas avant, quoi.
Et puis quand on parle de star ou pas star, en tout cas il y a un joueur qui fait un début de saison tonitruant, qui est rentré contre le Havre et qui a fait la différence, et qui hier
Barcola
c'est Barcola
Barcola
qui prend une dimension dans cette équipe assez
Barcola, oui, bah, qui peut lui devenir une star rapidement,
oui,
justement.
Oui, oui, lui qui peut devenir en tout cas un joueur supérieur dans cette équipe du PSG.
En préparant l'émission, je me disais, j'essayais de comparer Barcola aujourd'hui à Mbappé quand il est arrivé au PSG. Ah. Alors Mbappé avait marqué plus de buts à Monaco que Barcola en a marqué à Lyon.
Oh, bah oui.
Il a maintenant une année Barcola au PSG, mais j'ai l'impression que c'est le même niveau qu'Mbappé quand Mbappé.
Ah ouais, c'est la même histoire, justement. Avait gagné le championnat avec une très grosse équipe de Monaco et il avait fait des gros matchs en Ligue des Champions, ouais, notamment contre Dortmund et contre City.
Mais
donc,
ouais, ce que je vois hier, ça me fait penser à,
oui, bien sûr,
à,
oui,
du Mbappé de ses, oui, oui, débuts, oui, quand, ah, il a commencé à flamber et à nous étonner tous. Donc c'est à peu près de ce niveau-là. Non, moi j'aimerais juste dire une chose, c'est que nous sommes certains tous autour de cette table d'une chose, c'est que le PSG version star ou filant les clés à Mbappé, ça marche pas en Europe. Ça, ouais, personne, ouais, ne peut contester ce que je dis.
Mais on l'avait
Par
dit,
contre,
ouais,
la meilleure voie pour y parvenir, c'est de constituer un collectif de joueurs qui ont envie de bosser ensemble, qui ont envie de gagner ensemble. Si le Bayern, par exemple, a souvent gagné la Champions League, c'est parce que le collectif résonne chez chacun des joueurs du Bayern. Aujourd'hui, au PSG, moi, j'ai simplement, tranquillement, envie de croire que le PSG peut être prochainement un futur vainqueur de la Ligue des Champions. Je pense que c'est la bonne voie. Voilà, c'est tout. J'attends un attaquant de type, je sais pas, aussi mais par exemple, ça serait parfait pour un club comme PSG, et vu le recrutement qui a été effectué depuis le début de saison.
Mais ils sont pas prêts à mettre 100 millions sur Osimhen, par exemple, hein, tu vois.
Sans, ça, c'est rien encore.
Bah, c'est
on sait
dit.
Pas. Donc
après, à un moment donné,
s'ils font l'économie des 55 boules pour Mbappé, peut-être.
François, cette histoire de communication, moi, je l'ai déjà dit. Moi, je souscris à la nouvelle stratégie du Paris Saint-Germain. Pourquoi pas de donner les clés à Luis Enrique. Moi, je l'ai toujours dit l'année dernière. Je l'ai défendu. C'est comme ça que ça marche. On l'a vu avec Guardiola. On le voit avec Arteta à Arsenal. On l'a vu avec Klopp à Liverpool. Faut vraiment que ce soit l'architecte de son équipe. Mais après, il faut pas non plus
prendre
pour des imbéciles sur l'histoire de, je pense que moi.
On veut pas surpayer les joueurs.
Si Luis Enrique, si Nico Williams, c'était possible de le faire, il l'aurait fait Nico Williams. Si Julian Alvarez, quand il part à Atlético, c'est possible de le faire. Et je pense pas que Luis Enrique soit allergique aux joueurs de grande qualité. Donc, tu vois, l'histoire de non, ils veulent plus mettre, ils veulent pas
Tu penses sincèrement que les Qataris sont gênés aux entournures?
Non. Ah non.
S'ils voulaient le faire, ils le feraient.
Oui, mais non, est-ce que les joueurs veulent venir?
C'est ça la question, en fait.
Ouais. C'est la question. Est-ce que si Kvaratskhelia, il y a un mois et demi, si le Napoli le laissait partir, le PSG ne l'aurait pas fait? Je sais. Moi, je te dis pas oui ou non, mais je suis dans l'incapacité de répondre, mais je suis pas sûr que le PSG, c'est bon, table rase de tous les joueurs de qualité, de tous les joueurs à plus de 80 millions d'euros. Quand tu mets 70 millions sur Neves, tu peux mettre 80 ou 90 sur Osimhen. Je sais pas.
Absolument.
Après, je te dis pas qu'il faut absolument prendre Osimhen. Moi, je suis partagé là-dessus. Mais en tout cas, offensivement, je sens qu'il peut avoir des manques sur toute une saison. Saison très longue. Une saison où tu as deux matchs de plus en Ligue des Champions. Il y a une nouvelle formule. On est un peu dans l'inconnu là-dessus aussi, hein, sur les grands clubs de Ligue des Champions. Cette année, ça va être différent.
On va suivre ça, évidemment, et on va continuer d'en parler de ce Paris Saint-Germain avec vous au 32-16. N'hésitez pas à nous rejoindre dans les grandes gueules du sport ce matin. On revient avec Walid, avec Pierre-Ambroise, avec Pascal. Et on continue le débat avec vous au 32-16. A tout de suite.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Il est 9h32, merci de nous écouter dans les grandes gueules du sport ce matin. Pierre-Ambroise Boss, Walid Acherchour, Pascal Duprat. Dans un instant, le zapping des GG avec au programme notamment, tiens, de l'athlétisme avec le record du 800. Tout proche d'être battu, ça c'est spécial pour toi, Pierre-Ambroise. Et on parlera aussi de Cristiano Ronaldo. Il y aura du Cristiano Ronaldo dans le zapping. Donc ne manquez pas ça. Mais d'abord, la suite de notre débat sur le PSG. Est-ce que vous êtes convaincu par le mercato parisien? 32-16 pour nous rejoindre. Et Arthur Perrault est avec nous, hein, depuis 9h ce matin. Arthur, on parlait à l'instant de ce mercato à suivre. Tu as entendu sans doute Walid, Pascal, qui disait, il faudrait quand même qu'il soit complété, ce mercato. Est-ce qu'il pourrait l'être d'ici vendredi prochain, la fin du mercato, et notamment dans ce dossier du numéro 9.
On va dire que ça va être compliqué, très clairement. On a entendu parler, notamment ces derniers jours, d'Ademola Lookman du côté de l'Atalanta, de Jadon Sancho pour l'énième fois du côté de Manchester United. Alors ces joueurs, oui, ont été sondés par le Paris Saint-Germain, mais rien n'a jamais été avancé à chaque fois entre les deux clubs, malgré la volonté des deux joueurs de rejoindre le Paris Saint-Germain. Donc voilà, pour l'instant, c'est compliqué pour ces deux pistes. Et il y a un autre nom qui revient avec insistance, c'est celui de Victor Osimhen du côté de Naples. L'attaquant nigérian est toujours en salle d'attente. Il a déjà un accord pour venir, mais Naples continue de se montrer particulièrement gourmand. Et la seule chose qui peut inverser cette tendance, eh bien, c'est si demain le Napoli accepte de baisser sensiblement ses prétentions financières. Eh ben, dans ces cas-là, il n'est pas à exclure de voir le PSG se positionner concrètement sur lui.
Arthur, ça peut être une stratégie aussi du PSG d'attendre, parce que t'as Lukaku qui va
arriver
au Napoli, parce que Antonio Conte le veut, et on sait qu'il est un grand fan, il l'a eu notamment à l'Inter Milan, c'est très très bien passé, et donc Osimhen, derrière.
T'attends comme ça, t'espères que le prix va baisser jusqu'à la fin du mercato.
Voilà. Exactement. Donc,
parce que là, on ne comprendrait pas qu'il fasse Osimhen à 100 millions d'euros. Après ce que vous nous avez dit, quand même, même c'est si, pas dans la stratégie.
Même si moi, je ne l'écarte pas.
Et nouvelle
au-delà,
du PSG.
Arthur, au-delà de la qualité, il y a aussi la quantité des joueurs. Parce que quand on dit est-ce que le mercato vous a-t-il convaincu, il y a aussi les départs. Parce que on sait que Skriniar, Danilo et Mukiele n'étaient pas dans le groupe hier soir, donc c'est un signal fort quand même de Luis Enrique. On sait que Skriniar, ça va être très très dur de le sortir avec son salaire, mais il rentre plus dans les plans de Luis Enrique. Au milieu de terrain, il y a aussi Ugarte qui doit sûrement
partir.
Qui doit sûrement partir à Manchester United. Donc il y a les sorties et sur les arrivées, si ces mecs là partent. Qui sont les backups de Marquinhos, de Hakimi,
des jeunes peut-être.
Oui, il y a Zague,
Kimpembe qui va revenir.
Oui, mais enfin, il y a des
Beraldo.
Kimpembe, ça fait un an et demi, Pascal, qu'on attend qu'il revienne. Lucas Hernandez, on ne l'a pas pendant longtemps avec ses croisés.
Tu n'es pas à l'abri de nouvelles blessures.
Aujourd'hui, défensivement, on a le back four là avec Pacho, Marquinhos, Hakimi, Nuno Mendes qui est plutôt intéressant. Mais derrière, tu as Beraldo, tu as Zague. Est-ce que sur ça aussi pour faire toute une saison, tu es pourvu en quantité. C'est aussi ça les questions à se poser quand on parle de mercato.
Arthur.
Oui, alors pour la défense, c'est vrai que c'est un sujet dont on en a parlé d'ailleurs à l'antenne hier soir, mais c'est un autre sujet, et c'est vrai que la direction garde dans un coin de sa tête l'idée de se renforcer aussi dans ce secteur-là. Il y a un sujet notamment avec Milan Skriniar, blessé, gêné tout au long de la saison dernière au dos. La question se pose de le garder ou non. Alors un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Ces dernières heures, c'est plutôt blanc et l'idée de le garder. Mais très clairement, William Pacho, 22 ans, associé à Marquinhos, qu'est-ce que ça va donner sur des grands rendez-vous européens? La question se pose, y compris dans la direction parisienne. Quoi.
Exactement. Arthur, on va te remercier en tout cas. Tu vas suivre évidemment de très près le mercato parisien et les matchs du Paris Saint-Germain, bien sûr, avec notamment le tirage au sort de la Ligue des Champions. Ça sera la semaine prochaine. Merci Arthur, à bientôt.
Merci Arthur.
Bonne journée.
Merci beaucoup.
Salut messieurs.
Julien nous a rejoint au 32-16 dans les grandes gueules du sport ce matin. Bonjour Julien.
Bonjour à tous.
Merci c'est d'être avec nous. Bah oui, j'espère que toi aussi.
Bonjour Julien, peut-être tu fous la trouille, Julien.
Pourquoi?
Mais non, mais c'est le
pas,
matin,
sérieux, c'est 9h37.
Non, je suis au calme dans le jardin.
Ah bon, ça va.
Non, moi, pour répondre à la question, moi, je suis ni rassuré ni inquiet. C'est que déjà, c'est le début de saison. Il reste encore un peu de temps pour avant la clôture du mercato. Par contre, moi, j'aime beaucoup l'effectif qu'on a. Je trouve qu'il est jeune et talentueux, et donc je pense que c'est un recrutement à long terme. Parce que depuis quelques saisons, on dira le recrutement du PSG, c'est pas ça, mais quand on regarde, ils ont rajeuni, ils ont pris des jeunes prometteurs, et puis hier, franchement, c'était très plaisant, alors contre un Montpellier assez faible, c'était plaisant à regarder jouer, et je pense que ça va être comme ça toute la saison, ça va être plaisant. Donc ouais, peut-être on perdra contre des grosses équipes, ou peut-être ça sera plus compliqué dans certaines situations. Mais je pense qu'en termes de jeu et dans les intentions de jeu, ça va être plaisant. On n'a plus un joueur qui pollue le jeu. Donc ça aussi, ça nous fait du bien.
Là, tu parles de Kylian Mbappé, hein, pour être très clair.
Ouais.
Tu me dis polluer le jeu.
Moi, personnellement, j'attendais depuis deux, trois ans qu'il s'en aille. Ça fait plaisir.
Bah,
ça donne plus de possibilités. Il n'y a plus quelqu'un qui... qui vraiment attire toute l'attention dans le jeu et qui ralentit le jeu ou qui fausse un peu, pas qui fausse le jeu, mais qui modifie le jeu.
En tout cas, Julien, sur ce que tu dis là, un mercato à long terme, peut-être que Pascal, Walid et Pierre Ambroise, vous êtes d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord en revanche pour dire que c'est certes un mercato à long terme, ça veut dire que peut-être cette année, en Ligue des Champions, on va pas faire des grandes choses. C'est pas grave au PSG, ça. C'est parce qu'on a misé sur justement du long terme, sur un Luis Enrique.
C'est ce que les dirigeants disent, mais bon, à force, pour le supporter ou pour le foot français, ben franchement, il serait temps que le PSG inscrive son nom au palmarès en Ligue des Champions.
Est-ce que ça peut être dès cette année, vu ce mercato?
Pourquoi pas? Encore une fois, moi je dis juste.
Parce que ce sont des jeunes joueurs. Voilà.
Il est prépondérant que la défense soit renforcée, mais il est aussi prépondérant qu'un buteur récurrent vienne au Paris Saint-Germain pour confirmer tout ce qu'on voit là. Avec un garçon, avec un état d'esprit qui vient servir ou couronner le travail de ses coéquipiers. Un garçon qui est le premier à défendre, à faire en sorte de couper les passes. Ce qu'on ne voyait pas au PSG, donc il confirme le collectif du PSG en marquant des buts. Je pense que c'est prépondérant. Je ne dis pas que, comment dire, Gonzalo Ramos n'est pas capable de marquer, il l'a déjà fait, mais comme l'a dit Walid tout à l'heure, c'est quand même 3 mois sans jouer. Donc ça veut dire une demi-saison perdue pour lui. Mmh. Il va se passer des choses en une demi-saison pour le PSG, comme pour tous les clubs en Europe.
Mmh. Bon, après, on a vu qu'effectivement, il y avait d'autres joueurs qui savaient devenir buteurs. Pas Dembélé d'ailleurs, qui n'a pas marqué hier malgré
le. Il a marqué sur le premier match, mais c'est vrai que là, pour là, l'instant.
C'est peut-être l'axe de progression aussi.
Barcola est à 3 buts en 2 matchs. Mmh. Mais ouais, Dembélé, de toute façon, c'est ce qu'avait dit Luis Enrique en conférence de presse. Avec le départ de Mbappé et les fameux 40 buts qui manquent, et il a dit je préfère qu'il y ait 4 joueurs qui mettent 12 buts, mais il va falloir que les.
Avec
que
la restriction suivante.
Si on prend
les stats de Dembélé ne marque jamais plus de 5-6 buts par année. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un joueur important pour le PSG, mais ce n'est pas un buteur. Barcola sera davantage buteur que Dembélé.
Mais il va falloir qu'il se fasse un peu violence.
D'ailleurs, dans ce débat du 9, Luis Enrique n'a pas écarté l'idée de mettre Barcola, qui avait joué 9 visiblement dans ses jeunes années.
Oui, même si je le préfère quand même.
Oui, il est meilleur sur le côté.
Bon, Julie, vas-y, Pierre-Moise, non,
Non, je pensais à Dembélé.
Avec la performance d'Asensio.
C'est un buteur, Dembélé, il fait des drops. C'est très bien.
C'est ça, pour le rugby, il est pas mal. Julien, comment tu vois la saison du PSG, toi, en Ligue des Champions? Parce que c'est ça aussi, bien sûr, le révélateur. Est-ce que toi, en tant que supporter du PSG, tu trouves qu'il y a urgence aussi?
Moi, je suis pas trop inquiet. Après, déjà, on verra ce qui va. Après, il y a une nouvelle formule de Ligue des Champions. Je crois qu'on joue les poules jusqu'à fin janvier. Donc, on verra. Moi, je suis pas inquiet. Et vous parliez de la jeunesse, de l'effectif, du recrutement. Je regardais, là, Désiré Doué, il entame sa 3e saison, il a 19 ans.
Ouais.
Il est déjà pas loin de 100 matchs de Ligue 1. Enfin, allez, 70 matchs de Ligue 1.
T'as raison.
Il n'y a pas un souci. Hakimi, il a 25 ans. Et ça fait 8 ans, il est au plus haut niveau. Donc, c'est pas un souci. C'est des jeunes qui ont quand même l'expérience. Barcola, il joue depuis plusieurs saisons maintenant. Donc, je suis pas inquiet. Et dans ce qu'on est capable de produire, en fait, là, c'est le style de jeu que j'ai bien aimé hier. Ouais. Donc, on va voir après dans les matchs importants.
Là où tu as raison, c'est que si on doit mettre de la subjectivité dans ce qu'on voit chez ce Paris Saint-Germain et qu'on oublie un peu la raison, avec un peu plus de recul, cette équipe-là, quand tu te poses 2 minutes devant ta télé, t'as envie de l'aimer, t'as envie de t'attacher à cette équipe. Ça, c'est une certitude sur le style des joueurs, sur les joueurs, les jeunes joueurs. Moi, ça me plaît.
Ouais.
Maintenant, il faut qu'on prenne aussi un peu de hauteur en se disant, est-ce que face à City, face au Bayern, face au Real, face à Liverpool, parce que cette année, il y a Liverpool qui revient en Ligue des Champions, face à ces équipes, face à Arsenal, face à ces équipes-là, est-ce que ça suffira?
Bah, évidemment.
Maintenant, c'est vrai que t'as envie de regarder ce Lille PSG la semaine prochaine, savoir encore plus sur les joueurs, t'as un entrain quand tu regardes le PSG. Et ça, je peux comprendre que les supporters y adhèrent totalement.
Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est une grosse différence par rapport au passé où parfois le PSG crispait un petit peu tout le monde, y compris ses propres supporters.
Non, mais parce qu'en Europe, quand t'arrives en quart de finale de Champions League, t'attendais du PSG version Messi, Mbappé et...
Hein
Neymar, tu attendais que ces joueurs-là fassent la différence. Or, Neymar était souvent blessé, Messi a pas fait la différence quand on était, quand il était au PSG, arrivé à ce niveau-là. Et Mbappé a systématiquement déçu. Donc, tu jouais souvent à 7 quand tu n'avais pas le ballon. Donc, t'existes pas en Europe quand
tu défends à 8. T'avais une équipe coupée en deux,
Tandis que là, j'ai l'impression, je dis que, alors vous avez raison de dire que c'est le début de saison, mais j'ai quand même l'impression que chaque joueur de cette équipe hier court pour l'autre, court pour le collectif.
Et c'est ce qui est
donc
le plus important.
Ça donne quelque chose de sympa pour l'amateur de foot, l'esthète du foot.
Alors, on va remercier Julien d'être passé dans les grandes gueules. Merci beaucoup, Julien.
Merci, bonne journée à toi.
La suite du programme de Ligue 1 aujourd'hui sur RMC Lyon-Monaco à 17h, Lille-Angers à 19h, Saint-Etienne-Le Havre à 21h. On continue à parler de foot. Ça sera à 10h30 avec la punchline de Laurent Nicolin qui vient défendre Vincent Labrune. Mais dans un instant, vous le savez, c'est d'abord le zapping, un premier zapping dans les GG avec de l'athlétisme et du Cristiano Ronaldo dedans. A tout de suite.
RMC. Jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
9h45 dans les GG sur RMC. Merci de nous écouter en direct jusqu'à midi. Pascal Duprat, Walid Acherchour, Pierre-Ambroise Boss ce matin. L'émission qui ne s'arrête jamais, vous le savez, même pendant les vacances. On est en direct depuis 9h et ce sera d'ailleurs le cas toute l'année. Vous pourrez retrouver les grandes gueules du sport dès 9h tous les matins, le samedi et le dimanche. Merci à ceux aussi qui nous écoutent en podcast, toujours de plus en plus nombreux. À 10h, ce sera le bras de fer des grandes gueules du sport sur l'affaire Yannick Sinner, l'Italien numéro 1 mondial, blanchi après deux contrôles positifs. Est-ce qu'il doit faire l'US Open? On vous attend au 32-16 et on sera avec Eric Salio. Mais d'abord, c'est l'heure d'un premier zapping dans les grandes gueules du sport.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Ouais, Pierre-Ambroise, maintenant tu connais le principe par cœur. Je vous donne les actus de la semaine. C'est à vous de nous dire si ça vous plaît. Si ça vous plaît, ben, vous pouvez en parler. Sinon, on va vous passer votre tour. Le record du 800 mètres pourrait prochainement tomber. On s'en fout pas. Walid Acherchour.
Je m'en fous.
Pascal Duprat. Il a bien compris le principe, Walid. Pascal, tu t'en fous ou tu t'en fous pas? Pascal Duprat. Ah bah, visiblement, ouais, il s'en fout, ouais, Pascal. Ouais. Hein, parce qu'il est pas avec nous. Pierre Ambroise, tu t'en fous ou tu t'en fous pas?
Non, je m'en fous pas quand même.
Si tu t'en fous, toi, on est mort.
Oui, là, ça serait dommage. Le Kenyan Emmanuel Wanyoni, le champion olympique à Paris, s'est rapproché de 20 centièmes du record du monde de 800 mètres lors du meeting de Lausanne jeudi dernier. Un temps établi à 1 minute 41 secondes, 11 centièmes. Il pourrait prochainement le battre, ce record établi, on le rappelle, par David Rudisha au JO de Londres en 2012. Tu t'en fous pas, donc évidemment, Pierre-Ambroise Boss, tu as suivi ça, j'imagine, sur le
Oui, bien sûr, j'ai suivi toute sa saison. Il avait commencé déjà très fort au Trials Kenyan en gagnant tout seul, en moins d'une 42. Donc, bon, à part Rudisha, personne n'a vraiment jamais été capable de faire ça. Même Kipketer à l'époque courait pas tout seul. C'est lui qui avait l'ancien record du monde, une 41-11 d'ailleurs, c'est symbolique, il l'a fait pile sa perf. Mais je suis pas hyper convaincu par Wanyoni. Moi, je sais pas, pas dans le sens dopage ou quoi que ce soit. Hein. C'est sa façon de courir. C'est un peu désaxé et tout. Donc, on est vraiment, c'est à l'image en fait du nouvel athlétisme qui a lieu depuis certaines années, depuis la révolution technologique en fait. Et j'ai l'impression que c'est tout est un peu possible aujourd'hui.
Tous les records sont possibles, même avec une densité, athlètes qui ne sont pas les plus grands athlètes.
Il y a une densité beaucoup plus imposante aujourd'hui à tous les niveaux et sur toutes les disciplines. Mais voilà, les gens ont commencé à comprendre comment s'entraîner avec ces fameuses nouvelles chaussures à carbone avec la mousse. Et donc du coup, ça donne des courses qui sont maintenant bien différentes que celles qu'on a vécues avec l'air Rudisha, qui était qui était le grand coureur, avec ses grands compas, sa belle foulée, et qui était capable, en fait, c'était des coureurs qui étaient capables de faire moins de 45 au 400, voire 44-0. Et aujourd'hui, on peut faire à moins d'une 42 en valant 46 au 400. C'est plus vraiment très logique. Voilà, ça veut dire qu'il y a un côté ces deux derniers 200 mètres qui normalement, la vitesse décroît bien entendu. Et ben elle reste cette vitesse. Et c'est ça qui est, elle reste constante. C'est ça le grand changement en fait.
Et parce donc, que ce sont des chaussures qui ont un effet ressort pour tous ceux qui nous écoutent quasiment.
Il y a un retour d'énergie plus important. Voilà. Ça n'enlève pas leur performance qui est exceptionnelle. Hein. Tout le monde ne fait pas une 41 aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, Wanyoni, est proche du record du monde, mais ça ne veut pas dire que l'année prochaine, ça ne peut pas être un autre qui va le battre.
Ok. Pascal, on a retrouvé Pascal. Tu t'en foutais de cette info ou pas, le record du 800
mètres? Non, franchement, je m'en foutais pas parce que d'une part, une 41-11 sur deux tours, moi, ça me subjugue. Déjà, la performance passe de PA, tu m'arrêtes si je me trompe, Pierre-Ambroise, mais toi, c'est 1,42-53,
ouais.
ton record.
Une seconde et demie, ça commence à faire.
Ouais, mais vous êtes quand même des extraterrestres. Pour tous ceux qui ont fait un peu de sport et un peu d'athlétisme à l'école.
Ah, bah, 800 mètres, c'est quelque chose de dingue, en plus.
Non, c'est tout à fait humain, beaucoup d'entraînement, vraiment.
Et ce que tu viens de souligner. C'est ce qui me subjugue encore plus, c'est qu'ils sont capables encore d'accélérer aux 600. Voilà, à 600 mètres sur les 200 derniers mètres, ils sont capables.
Il y a un truc aussi, moi, qui m'a marqué, c'est les petites lumières là sur le côté. Du coup, à Lausanne, c'était pas le cas au JO, mais à Lausanne, il y a ces petites lumières qui indiquent le temps de passage du record du monde. On est d'accord.
Ça
peut peut-être aider aussi quand même un coureur dans
peut-être
la recherche d'un
certainement,
record
parce
du
qu'en
monde.
Plus, on est assez lucide, donc on voit les temps de passage et compagnie pendant les courses. Alors la light, elle est, enfin voilà, ça reste régulier. Donc si tu veux, le 800, le premier 400 est pas pile à la vitesse du deuxième 400, alors que la light va à la même vitesse, enfin à la vitesse du record du monde, quoi.
Je comprends ce que tu veux dire.
Voilà, disons que si le record du monde s'était fait en 49-52, ou j'en sais rien, ça serait. Voilà, la light, elle va à la vitesse constante.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire.
Je suis pas sûr que ça soit
une aide vraiment pour les.
Ils sont hyper forts, voilà, ça changerait rien pour moi sans la light.
Hyper forts et j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup. Ils sont nombreux.
Non, mais c'est surtout plus dense, en fait. Voilà, il y a plus d'arbres qui cachent la forêt.
Alors, deuxième info dans ce zapping. Cristiano Ronaldo qui cartonne avec sa chaîne YouTube. Je ne sais pas si vous avez vu ça. On s'en fout pas. Walid Acherchour.
Oh.
Il va nous faire un air zapping. T'as le droit de dire que tu t'en fous.
Je m'en fous.
D'accord, très bien. Pascal Duprat.
Bah, en fait, comme c'est Cristiano, je m'en fous pas. Mais voilà.
Pierre Ambroise.
Le sujet, je m'en fous.
Ah, il s'en fout. Bah, Pascal, tu vas être le seul à parler. Cristiano Ronaldo qui a lancé cette semaine sa chaîne YouTube. Carton monumental. Plus de 32 millions d'abonnés actuellement. J'ai pas regardé ce matin. C'est peut-être au-delà. On trouve des jeux, des quiz avec sa femme Georgina. Le but, je cite, c'est de voir qu'ils sont des gens de chair et de sang. Voilà ce qu'ils disent dans le petit teasing.
Très ludique.
C'est pas à toi de parler. Putain,
ah oui,
tu t'en fous.
D'accord.
Pascal.
Ouais, donc il y a que moi qui dois parler sur ce sujet-là. Non, Cristiano Ronaldo, comme c'est un extraterrestre, dès qu'il fait quelque chose, ça marche.
C'est passé à 38 millions, Pascal. Ça a pris 6 millions.
Il m'aura pas comme client, mais je préfère encore regarder ses matchs.
Je suis sûr que tu vas aller regarder après l'émission.
Non, je te promets que non, j'irai pas regarder. Je préfère aller regarder ses buts et les buts qu'il empile, même encore à son âge.
Alors, une autre info, peut-être que ça va vous intéresser un peu plus. Zabalenka qui dénonce la différence de prize money avec les garçons lors du tournoi de Cincinnati. C'est du tennis. On s'en fout pas. Pascal Duprat.
À condition que tu me donnes la différence et après je te réponds.
Je vais te donner après. La différence, c'est quasiment la moitié. C'est quasiment la moitié.
Alors, je m'en fous pas.
Pierre-Ambroise Boss.
Non, je m'en fous pas.
Walid Acherchour.
Je m'en fous pas.
Voilà, c'est la Bélarusse Arina Sabalenka qui a reçu 470 000 euros pour sa victoire au Masters 1000 de Cincinnati. Moitié moins de ce qu'a remporté Yannick Sinner, 943 000 euros pour l'Italien. Et elle explique que du point de vue de la télé, de la vente des billets, de tous les points de vue, c'est injuste. Les hommes seront toujours plus forts physiquement que les femmes. Mais cela ne signifie pas que nous ne travaillons pas aussi dur que à l'US Open, il y aura égalité parfaite. C'est d'ailleurs le premier événement sportif en 73 qui avait mis l'égalité parfaite dans le prize money entre les femmes et les hommes.
C'est une bonne chose.
Ouais.
C'est très bien.
Bah, en tout cas, c'est fou que, encore une fois, à Cincinnati, qu'à Masters 1000, il n'y ait pas égalité.
Oui.
Ça vous surprend?
Surprend, oui et non, mais j'aimerais bien que ça soit beaucoup plus réduit, en tout cas, et qu'on se rapproche comme à l'US Open. Après, surpris, oui et non, parce qu'il y en a qui te diront qu'aujourd'hui, ceux qui font remplir les stades,
c'est la logique financière.
C'est la logique financière. C'est qu'aujourd'hui,
combien ça rapporte
dans le sport? Aujourd'hui, une demi-finale de Masters 1000 féminin, fait, entre guillemets, intéresse beaucoup moins qu'un Djoko Alcaraz, par exemple.
Je sais pas si dans l'athlé, c'était en termes de.
Ça dépend vraiment de l'image.
Des fois, Carlton, par exemple, elle va avoir un plus grand prize money,
bien sûr, c'est que ça. Mais Nadal, j'invite les auditeurs à regarder une vidéo de YouTube, sur YouTube de Nadal, qui avait répondu à ça, justement, on l'attaquait sur les prize money, la différence, et il expliquait en fait que, dans différents secteurs, il y a une attractivité, une attraction surtout. Donc par exemple dans le mannequinat, pourquoi les filles sont plus payées dans le sport, ça va dépendre en fait toujours. Donc
après, c'est une question de marché. Après, ils font le même boulot, c'est ce que disait Zabalenka. Donc on peut Après, ne pas être question... d'accord avec ça.
Oui, tu peux, mais il y en a qui te diront.
Non, mais fondamentalement, je pense que tout le monde, ou en tout cas nous trois, je parle au nom de mes collègues, mais on est tous d'accord sur le fait qu'il devrait y avoir. Pas avoir autant de déséquilibre, d'avoir l'égalité, tout simplement.
Oui, oui,
mais
oui,
après,
oui,
c'est, bien sûr, évidemment. C'est une question économique, c'est les recettes d'un côté, vous mettez les recettes du tennis masculin et les recettes du tennis féminin, et on s'apercevra que les recettes sont moindres chez les filles. Certainement, ce qui explique, même si on peut pas être d'accord, ce qui explique cette différence. Il y a juste un truc, si elle n'est pas dans un paradis fiscal, elle paiera moins d'impôts.
Merci du conseil.
Mais voilà, mais pour revenir à l'athlé, justement, je suis pas convaincu que ça soit juste hommes et femmes. Le problème, c'est, tu vois, tu parlais de l'athlé. L'athlé, c'est des disciplines des sports dans des sports. Et les lanceurs de marteau, ça a beau être des mecs, ils gagneront jamais autant qu'un coureur de 100 mètres ou de 400. Voilà,
on peut pas avoir l'égalité partout, ce que tu veux dire.
C'est pas qu'on peut pas l'avoir, c'est que le marché est fait avec les gens qui regardent, en fait.
Par exemple, demain, moi, je vais aller acheter une place, une demi-finale ou une finale de Roland Garros.
Toi, t'es invité maintenant?
Non.
Ah bon?
Mais aujourd'hui, aujourd'hui, ma finale homme est bien plus chère que ma finale femme.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Alors, peut-être qu'à l'époque de Serena Williams, c'était autrement aussi. Il faut peut-être des athlètes, notamment dans le tennis féminine, qui boostent un petit peu tout ça.
Ouais.
On aura l'occasion d'en reparler. D'ailleurs, on va parler de tennis dans un instant. Vous restez avec nous dans les grandes gueules du sport. Avec Yannick Sinner, le numéro 1 mondial, contre le positif avant d'être blanchi. Est-ce qu'il doit faire l'US Open selon vous? On vous attend au 32-16 pour nous rejoindre tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.